Rencontre. Merci, docteur Anne Richard, présidente de l'association stéphanoise de Jalmave. Merci aux deux bénévoles accompagnantes, madame Christine Gros et Françoise Gramel, pour leur présence dans notre studio. Alors, Jalmave, nom difficile à prononcer, que veut dire ce nom ?
Oui, c'est difficile, mais parce qu'il a une signification très symbolique, ça veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Voilà, ce sont des bénévoles qui accompagnent les personnes en fin de vie. Et avec ce sigle, on signifie vraiment qu'on va accompagner la personne sans l'abandonner jusqu'à la fin de sa vie.
C'est un mouvement relativement récent. Il est né en 1983, je ne me trompe pas, à Grenoble. Mais aussi à une période peut-être un peu éloignée, ne serait-ce que dans le traitement médical des personnes en fin de vie, puisqu'à cette époque, on commençait tout juste à parler des soins palliatifs.
Tout à fait. Jalmave est un mouvement citoyen. Il a été créé, ce mouvement, par le professeur Scherer de Grenoble, donc, qui était cancérologue. Mais c'est un mouvement citoyen qui a poussé un petit peu les professionnels à s'améliorer dans le traitement de la douleur et par la suite en s'améliorant dans les soins palliatifs.
Et très vite, ce mouvement a rayonné sur toute la France, peut-être au-delà, non ?
Tout à fait, sur toute la France et au-delà. D'abord dans la région Rhône-Alpes, puisque c'est à Grenoble qu'est né le mouvement, et puis sur l'ensemble de la France, dans les départements outre-mer, et puis en Belgique, au Canada, il y a quelques associations. 85-90 associations qui sont réunies en une fédération nationale.
Oui, c'est assez curieux d'ailleurs, cette multitude d'associations, de ce morcellement. Quel avantage ou aussi quel inconvénient peut-on trouver ?
Alors, l'immense avantage, c'est qu'on est au plus près des personnes concernées. C'est-à-dire qu'il y a à Saint-Étienne 48 bénévoles qui interviennent sur Loire-Sud. Et on en reparlera peut-être, ces bénévoles sont formés au départ par l'association, ils sont par une formatrice et cette formation se déroule sur une année, enfin 10 journées, mais sur une année. Et puis ensuite, ils sont soutenus avec des groupes de parole localement sur Saint-Étienne. C'est inimaginable sur l'ensemble de la France. L'avantage d'une fédération centralisée, c'est que nous avons des échanges, nous avons un congrès chaque année, nous avons des références, des textes de référence qui nous aident beaucoup dans le fonctionnement de nos associations.
Donc très vite, on va être exprimé, on va dire, deux principes et trois valeurs fondamentales. Donc les deux principes sont ceux de laïcité et d'indépendance.
Voilà, laïcité, bien sûr, et puis neutralité. Neutralité par rapport au niveau politique, au niveau philosophique et religieux. Nous sommes un mouvement laïque et nous avons des valeurs qui nous rassemblent, qui sont le respect de la vie jusqu'au bout, dans le respect des lois actuelles en France, et puis des valeurs de solidarité envers les personnes, et en particulier les plus fragiles et celles qui sont en fin de vie, quel que soit leur âge et le lieu de leur existence.
Donc reprenons un par un. Alors d'abord, la laïcité, ce n'est pas toujours facile à vivre, surtout quand on a des convictions religieuses, on doit avoir envie effectivement de faire partager sa foi, de prier. Alors je pense que peut-être que vous priez avant de voir aux malades ou après.
Pour ma part, oui, je pense qu'il faut se préparer intérieurement avant d'accueillir des malades. En même temps, quand je suis devant mes malades, je suis avec mes malades. J'ai une confiance absolue dans ce qui se passe. Et après, souvent, je remercie pour ce qui s'est passé. Mais quand je suis devant le malade, je suis avec le malade et j'accompagne du mieux que je peux par ma présence. C'est quelque chose qui m'échappe. Hein. Je le fais parce que j'aime le faire et que j'aime rencontrer l'autre. Et puis après, bon, je peux bien sûr repenser à ça, éventuellement prier. Mais quand je suis devant le malade, avec le malade, je suis totalement là-dedans.
Et les rencontres sont différentes d'un malade à un autre.
Oui, tout à fait. On découvre le patient lorsqu'on ouvre la porte. On a un petit briefing avec le personnel soignant. Et lorsqu'on ouvre la porte, on fait connaissance avec le malade. où le courant passe tout de suite, où le courant ne passe pas. Après, c'est à nous adapter, à respecter le choix de la personne. S'il ne veut pas parler, on les remercie de nous avoir reçus, on referme la porte et on revient la semaine d'après. Peut-être qu'une fois qu'on est présenté, ça a fait du chemin dans sa tête et que la seconde fois, il sera prêt à nous accueillir.
Quand vous accompagnez des familles en deuil, là aussi, ça doit être difficile d'être laïque, de ne pas faire partager une espérance de vie après la mort.
J'aborde pas du tout ce thème avec les endeuillés. Alors, on accompagne des personnes qui viennent soit individuellement au local, soit en groupe, des groupes de 5 à 6 personnes, 7 personnes. On travaille surtout sur l'écoute. Nous, notre engagement, c'est écouter l'autre. Donc, il vient l'endeuillé pour déposer sa douleur, parce qu'il est dans une solitude souvent énorme. Il n'ose pas parler à la famille de sa douleur parce qu'il ne veut pas l'importuner, il y a une lassitude au bout de quelques mois, etc. Il y a un isolement social grandissant. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être avec ces personnes, d'écouter leur douleur, d'être témoin. C'est très important qu'il y ait quelqu'un qui puisse être témoin d'une douleur, permettre l'expression de cette douleur. Donc, si vous voulez, on est un lieu où c'est possible, où les émotions peuvent être vécues en liberté. Et c'est aussi un temps qu'on offre à ces endeuillés, car nos rencontres en groupe se font sur plusieurs mois, à un rythme de toutes les 3 semaines à peu près, sur 6-7 mois. Donc, il y a tout un parcours intérieur qui se fait. Moi, j'ai toujours l'espérance que les gens bougent, parce qu'on les voit d'ailleurs qui vont apprivoiser leur douleur. La douleur, elle reste. Mais disons, notre désir, comme le leur, c'est que cette plaie du deuil, de la souffrance, de la perte, se cicatrise au fil du temps. Et tout le monde sait qu'une cicatrice, il faut du temps. Alors, elle se ferme plus ou moins, mais voilà. Notre allié, c'est le temps et l'écoute.
Et cet accompagnement des personnes en deuil se trouve dans toutes les associations de France, ou c'est particulier à Saint-Étienne ?
Non, pas toutes, mais la plupart des associations JALMAV ont quelques bénévoles qui se sont formés spécifiquement pour l'accompagnement des personnes en deuil. Il y a des associations, par contre, qui sont centrées uniquement sur les personnes en deuil, sur le deuil.
Jonathan Pierre Vivante, par exemple.
Voilà, Jonathan Pierre Vivante qui accompagne les personnes qui ont perdu un enfant. Et puis voilà, c'est l'association Vivre son deuil qui a aussi une fédération nationale. Mais sur Saint-Étienne et sur la Loire, il n'y a pas cette association. Il y a eu, mais elle n'y est plus. Donc on est un petit peu complémentaires, et quand les deux associations existent sur le même territoire, il est évident qu'on travaille ensemble.
Jonathan Pierre Vivante existe sur Saint-Étienne, et c'est vrai qu'on a des rencontres, on travaille avec eux.
Laïcité, indépendance. Alors, je pense que quand vous rentrez dans une chambre d'hôpital, on peut vous considérer au début comme un personnel de l'hôpital, envoyé par l'hôpital.
Alors, bien sûr, quand on a des contacts avec l'hôpital, Saint-Étienne, l'association Saint-Étienne signe une convention avec les établissements qui en font la demande. On n'intervient pas par hasard. On a des lieux ciblés en accord avec les soignants. Donc, on prend contact avec le soignant au sein du service. Il nous fait une petite relève en nous disant « bon, tu as telle personne, allez voir ». Et après, c'est à nous, avec un badge, à nous présenter en disant « moi, je me présente, je suis bénévole d'accompagnement et si vous le désirez, je passe un moment avec vous ». Voilà, tout simplement.
Et quels sont, par exemple, les hôpitaux ? Vous avez une convention ?
Oui, nous avons des conventions avec la plupart des hôpitaux de Saint-Étienne, le CHU, HPL, l'Institut de cancérologie et puis de nombreuses EHPAD. Et c'est important ce que vient de dire Françoise, parce que le bénévole, il ne fait pas partie de l'équipe soignante. Il est en lien avec l'équipe soignante, mais il ne connaît pas le dossier du malade. Les soignants n'ont pas à donner de renseignements médicaux concernant le malade. Et le bénévole ne fait pas partie non plus de la famille. Ça lui donne une place indépendante, comme vous dites, et très privilégiée et qui permet une très grande confiance du malade. Parce que voilà, cette indépendance, le malade se sent avec une certaine liberté pour lui parler. Alors nous signons effectivement des conventions, ce sont les établissements qui nous demandent. Et voilà, c'est une convention qui recouvre les droits et les devoirs du bénévole, avec évidemment toutes les questions matérielles, d'assurance, etc.
Alors les hôpitaux et puis bien sûr des EHPAD avec des établissements aussi bien publics que privés. De Rive-de-Gier à Firminy, donc une surface quand même assez importante.
Il y a actuellement 19 lieux d'accompagnement sur tout Loire-Sud. En sachant que encore une fois, il y a Jalmave-Roanne et Jalmave-Forêt, et là aussi, il y a autant de bénévoles qui interviennent dans l'hôpital, enfin de chaque ville, et puis dans certaines EHPAD.
Indépendance politique, indépendance financière aussi. Donc, problème des finances, comment pouvoir trouver de l'argent pour faire vivre ce mouvement?
Oui, indépendance financière. Alors, nous sommes une association, 1901. Le principal souci financier, enfin la charge financière que nous avons, c'est la formation des bénévoles. C'est plus de trois quarts de notre budget.
Le local aussi.
Elle est locale, bien sûr. Voilà, j'allais dire, avec le local et la communication. En gros, c'est les trois grands postes, mais la formation est un énorme poste. Mais alors, nous sommes aidés, bien sûr, nous avons des subventions. Il y a d'abord la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui nous subventionne. Alors, il y a quelques années, c'était presque 60% du coût de la formation. Maintenant, ça n'est plus que 35%, parce que le chiffre est toujours le même, le chiffre total, mais le nombre d'associations et de bénévoles a augmenté. Tant mieux, mais bon, voilà. Et puis, voilà, nous allons à la pêche aux subventions et à l'aide, aux dons privés, aux legs. Et puis les cotisations, bien sûr, des adhérents, mais volontairement, la cotisation est faible parce que ce n'est pas le but. Voilà, ça, c'est notre travail de responsable de l'association.
Revenons maintenant aux valeurs fondamentales. Donc, dignité inhérente à la personne humaine. Vous en êtes convaincu, puisque vous êtes dans ce mouvement, mais il faut faire aussi partager cette conviction. Par exemple, quand vous allez parler d'accompagnement de fin de vie, en établissement scolaire ou à d'autres personnes, c'est peut-être pas toujours si facile que ça.
Surtout que le terme de dignité peut avoir plusieurs sens suivant la personne ou l'organisme qui en parle. Pour moi, dignité, c'est le respect de la personne dans son désir et dans ce qu'elle est, vivante jusqu'au bout. La personne que j'accompagne, elle a peut-être plus de projet de vie pour elle, mais là, une histoire qui est unique, qui a une valeur indéniable, qu'elle soupçonne d'ailleurs elle-même souvent pas, et à travers l'écoute, faire apparaître, faire émerger toutes ces valeurs qu'elle a portées, tout ce vécu qu'elle a tissé, ça c'est sa dignité humaine, elle est intrinsèque à sa personne, et pour moi la respecter, être témoin de ça, c'est merveilleux.
D'accord, parce que là, il y a une communication, la personne peut parler. Mais quand, en fin de vie, elle ne peut plus parler?
Elle reste toujours digne. Elle a toujours ce
passe. Comment on peut faire les échanges?
Alors, il y a la communication verbale. Quand elle n'existe plus, il y a tout le reste qui est énorme à découvrir. Alors,
par exemple?
Alors, toute la communication non verbale qui passe par le regard si la personne n'est pas encore aveugle, qui passe essentiellement par le toucher. Alors là, il faut être prudent, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on les touche. Ça m'est arrivé un jour de rencontrer une mourante qui ne voulait absolument pas qu'on l'effleure. Là, je crois qu'il faut écouter son intuition, être très vigilant, bien sûr, par rapport à l'autre et par rapport à son ressenti. Par le toucher, il se passe vraiment énormément de choses. Une sensibilité qui s'exprime, le fait d'être là, que la personne n'est pas seule. Je crois qu'en fin de vie, ce combat contre la solitude, c'est vraiment le nôtre. Mourir seul, pour moi, c'est pas acceptable. Alors, il y a des personnes qui désirent mourir seules. D'ailleurs, on en fait l'expérience très couramment, qui décèdent au moment où les proches sortent de la chambre, par exemple. Mais tous ces moments avant vraiment l'agonie ou la mort, témoigner qu'on est là en tant que citoyen. On parlait tout à l'heure de démarche citoyenne, qu'on a une solidarité dans notre société et que mourir seul, c'est quelque chose, enfin, pour moi, qui est vraiment, je le disais tout à l'heure, inacceptable. Donc, être là, toucher la personne, humaniser ce moment tellement douloureux et unique. Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment important, cette communication à ce niveau-là. Et la présence, parce que j'ai le cas d'une malade actuellement qui est donc grabataire aveugle et sourde à ne pas entendre mon prénom quand je lui crie dans l'oreille, puisqu'elle me dit « plus fort, plus fort ». Joséphine, non, je ne sais pas, je sais une Christine, elle ne l'a jamais dit, mais Jacqueline, j'ai non. Eh bien, quand j'entre dans la chambre, tout de suite, elle tourne la tête vers la porte, elle sait qu'il y a quelqu'un. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait un sixième sens. On parle très, 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 très peu maintenant, puisqu'elle ne peut pratiquement plus, mais elle sait que je suis là. Elle me prend les mains, et bon, alors il y a une communication extraordinaire. Bon, elle n'est pas encore en fin de vie, mais elle est déjà bien abîmée, la pauvre.
Oui, la solitude, c'est vraiment un mal associé donc à la fin de vie. Même dire, pour toute personne qui est malade, de façon ou d'une autre, elle est coupée de la société. Et vous, donc, vous représentez cette société.
Le bénévole, c'est un peu le voisin. Dans le temps, il y avait un voisinage, une amitié, enfin des connaissances de voisinage. Et quand une personne du quartier était malade, les voisins faisaient les courses et venaient passer un moment à côté. Maintenant, on n'a plus la même vie et le bénévole remplace un peu, prend un peu cette place et redonne un peu du lien avec des personnes qui sont isolées.
Une ouverture donc, au monde extérieur.
En plus,
mal qui est enfermé dans cette chambre.
En plus, les personnes en fin de vie et qui sont enfermées dans la chambre ont une soif de connaître un peu ce qui se passe dehors. Et ils nous demandent. Alors parfois, ils nous demandent notre famille. On n'est pas là pour parler de nous et de notre famille, mais ils nous demandent ce qui se passe dehors. Ils sont avides d'un voyage qu'on a pu faire ou quelque chose. Enfin, peut-être que les bénévoles ont des exemples, mais
J'ai fait l'accompagnement d'une personne qui avait déjà passé beaucoup de temps à l'hôpital. Les premières rencontres ont été à me parler des grands espaces dans lesquels elle vivait, de sa maladie. Là, quand le climat de confiance est instauré, ils me parlent de leur maladie. Elle avait choisi volontairement de faire arrêter tous les traitements. Elle estimait qu'à son âge, elle n'avait plus besoin de traitement, qu'il y avait des gens jeunes qui étaient concernés par cette même maladie et qu'elle laissait la place aux jeunes. Donc, pendant 3 semaines où je l'ai accompagnée, elle a beaucoup parlé d'elle, beaucoup parlé de son entourage. Elle vivait en pleine campagne, de ses animaux. Elle m'a fait voir les photos de ses proches. Et la dernière semaine où je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Finalement, j'ai assez parlé de moi. J'aimerais que vous me parliez de vous, de votre famille. » Alors je lui dis « Écoutez, on n'est pas loin des fêtes de Noël. Moi, je suis en train de faire de la décoration pour la maison, pour faire pour mes petits-enfants, tout ça. » Et j'avais sur mon téléphone des photos. Donc, je lui ai fait voir, avec 4 bouts de bois et 3 bouts de chiffon, j'avais fait des petits lutins. Et elle était vraiment heureuse de partager ce moment avec moi. Et elle me dit, vous savez, ma plus grande joie, ça va être de penser à vous et à votre famille le jour de Noël. Sauf que la semaine d'après, quand je suis revenue, elle est partie le jour de Noël.
C'est une personne qui n'avait pas de famille, alors, ou très peu.
Alors, elle avait un fils, mais un fils qui était placé en psychiatrie, dans lequel elle se faisait beaucoup de soucis. Voilà. Et elle n'avait plus ces moments chaleureux en famille. Et du fait que moi, je lui avais expliqué que je préparais Noël avec mes enfants, elle m'a dit, je le passerai avec vous. Et en fait, elle a choisi de partir ce jour-là.
Et vous arrivez d'avoir des contacts avec la famille, les malades que vous visitez? Et si oui, comment se passent ces contacts?
C'est très important, les contacts avec la famille, surtout bien sûr au moment de l'agonie, enfin quand le malade est près de la mort. Souvent, les contacts se font dans le couloir de l'hôpital, c'est-à-dire pas un lieu tellement approprié apparemment, bien sûr, à ce genre de confidences. Pas dans la chambre du malade, pas au pied du malade, c'est sûr, quelquefois dans une pièce pour les familles. c'est toujours des moments très, très, très forts qu'on peut passer avec les familles. Et l'accompagnement peut se faire sur des semaines, hein, quand le malade reste très, très longtemps. Les vieilles personnes prennent du temps pour mourir, si on peut dire. Alors là, c'est assez étonnant. Les familles, c'est souvent le fils, la fille, dans ce que j'ai vécu, d'abord ont un besoin de déposer leur douleur, c'est une évidence. Souvent, c'est comme des vannes qui s'ouvrent, tout ce qu'ils ont, toute leur douleur, tout ce qu'ils ne peuvent pas exprimer devant le malade. Ils vont dans le couloir pratiquement s'effondrer. Donc là, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir ça. Je pense que même si on ne fait pas grand-chose, on est là et ça, c'est important. Prendre dans les bras la personne qui pleure, par exemple. Ça peut être un geste très important. Et puis, quelquefois, on peut même garder des liens après. Ça m'est arrivé dans quelques cas avec certains membres de la famille. Alors là, c'est des aventures humaines magnifiques parce que il y a un rapport de confiance qui s'est établi, qui nous dépasse quoi, largement. Ça, c'est très beau à vivre.
Très beau, être mais lourd aussi quand même, parfois pénible. Je comprends que vous aviez besoin aussi d'échanger entre vous.
Alors, on a la chance d'abord d'avoir appris en formation beaucoup de choses sur les émotions, comment vivre ces émotions, ne pas se laisser envahir par l'émotion. On a une jolie expression quand on sent que ça monte, hein, que vraiment on va bientôt éclater. Quelqu'un nous avait dit, on pense à la phrase « au pied ». On met comme un chien, on dit « tu restes au pied ». L'émotion, on la valide, on la reconnaît, mais on ne se laisse pas envahir par elle. On lui dit en quelque sorte, tout à l'heure, je m'occuperai de toi. Mais pour l'instant, je suis là avec le malade. C'est un autre temps. Donc là, il faut, une connaissance de soi suffisante. Cette intériorité dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas entrer dans une chambre de malade comme ça. Il faut être préparé intérieurement. Ça, c'est évident. Et puis, deux, faire confiance à ce temps, justement, à ce temps nécessaire. L'émotion doit être prise en compte, mais on ne doit pas du tout se laisser envahir par elle. Donc ça, c'est au pied du malade, c'est une chose...
Et après, donc, avoir vécu cette expérience, vous pouvez entre vous, entre bénévoles...
Alors, on a une grande chance, oui, on a une grande chance dans notre formation, dans notre association, c'est qu'on a des groupes de parole tous les mois où on se retrouve donc entre bénévoles avec une psychologue qui nous assiste, qui nous accompagne. C'est un lieu de confidentialité, bien sûr, et de là où on peut déposer les joies ou les peines ou les difficultés, où on élabore tous ensemble des cas particuliers qu'on propose. Et ça, c'est magnifique. C'est un point, d'abord, on fait partie vraiment d'une association. C'est très important, ce cadre qui nous soutient. On a besoin de ça. On n'est pas des électrons libres qui rendons visite à des malades. On est au sein d'une institution, enfin d'une organisation, d'une association qui a des valeurs, qui les défend, qui les incarne. Et ensuite, entre nous, bien sûr, il y a des liens d'amitié très, très forts qui se lient. On est à peu près entre 10 et 12 personnes par groupe maximum. Et au fil des années, parce que souvent on est 2-3 ans ensemble, on avance et ça, on a beaucoup de joie. On partage des grands moments de joie. Les choses vécues sont lourdes, mais elles sont comme transcendées parce qu'il y a de la vie. On est vraiment au cœur de la vie, jusqu'à la mort accompagner la vie. C'est ça qui est important. On est vivant jusqu'au bout et nous, on accompagne des vivants. Et c'est pour ça que, je dois dire que c'est comme la légèreté qui domine malgré la lourdeur des cas.
Et pour accompagner les vivants, il faut aussi que l'association vive, donc elle puisse accueillir de nouveaux bénévoles. Vous êtes combien de bénévoles pour l'instant à Saint-Étienne ?
Alors, 48 bénévoles accompagnants. Il y a aussi des bénévoles de structure.
C'est-à-dire que tout ce qui est administratif,
trésorerie, les permanences.
Et puis ceux qui font les permanences, oui.
Oui, La communication, la formation, la coordination. Voilà, c'est tout à la base des bénévoles.
Il y a 130 adhérents, à peu près. Et sur les 130, il y a à peu près la moitié des adhérents qui sont des bénévoles actifs. Alors, les accompagnants et puis aussi les bénévoles, on les appelle dans notre jargon structure, mais c'est pour faire fonctionner l'association.
Donc, il faut vous faire connaître pour pouvoir accueillir de nouveaux bénévoles.
Alors, effectivement, donc c'est la communication tout d'abord. Alors, nous avons un site internet. Hein, ça fait un peu plus d'un an que nous avons le site. Et c'est Françoise qui d'ailleurs, est notre webmasteratrice, je crois qu'on dit. avec Facebook en même temps. Donc voilà, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et puis ça permet de faire connaître. Et un certain nombre de bénévoles qui viennent frapper à la porte nous ont vus sur le site internet. Et puis, bon, voilà, des émissions comme celle-ci nous permettent de dire que nous recherchons des bénévoles. Et plus activement en ce moment, puisqu'il y a, comme disait Françoise, une campagne nationale actuellement. Donc, tous les JALMAF de France se mettent ensemble pour dire « nous cherchons des bénévoles ». Ces bénévoles, nous les recevons, bien sûr. On essaye de voir ensemble si leur projet correspond bien à ce qu'on peut leur proposer. Et puis, ils ont une formation qui se déroule sur une année. Alors, à Saint-Étienne, c'est l'année civile. Nous allons commencer une formation en mars prochain qui se déroule en général le samedi, mais une journée par mois. Il y a 9 journées en tout. Une journée qui est réservée, que l'on appelle sensibilisation, et qui permet, on donne un petit peu un éventail de ce qu'est l'association, de ce qu'est une personne en fin de vie, les valeurs de l'association et ce que fait un bénévole. Donc il y a des témoignages, etc. Et au bout de cette journée, la personne dit « oui, effectivement, c'est ce que je cherche, je sens que je peux me trouver bien dans cet engagement de bénévole » et donc elle va continuer 8 journées de formation à l'écoute, comme vient de dire Christine, où la personne fait d'abord un travail sur elle-même, parce qu'on ne peut pas être bénévole dans ce contexte sans être un petit peu au clair avec notre propre mort, avec les deuils que l'on a vécu dans sa vie, parce qu'on en a tous vécu. Et cette formation qui s'étale sur une année donc permet de donner un temps aux futurs bénévoles de travailler, d'élaborer un peu à partir des événements de sa propre vie, parfois le partager avec ses autres collègues qui font la formation avec eux. Et puis voilà, des apprentissages aussi un peu techniques, entre guillemets, des techniques d'écoute, avec des jeux de rôle, etc. Et puis au bout d'un an, eh bien voilà, ils sont présentés, intronisés, j'allais dire, à l'ensemble des bénévoles accompagnants. Françoise va compléter.
Pendant leur formation, ils vont suivre 2 stages en immersion. C'est-à-dire qu'ils vont faire un stage en long séjour et un stage en soins palliatifs pour voir la différence et voir où ils seront le mieux à l'aise après pour pratiquer leur écoute.
Mais avant de former, il faut inviter. Donc il faut vous faire connaître. Alors, qu'est-ce que vous avez envisagé? Peut-être des conférences? On va parler d'un concert aussi, Saint-Augustin.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, des conférences, il y a une permanence aussi. Et puis, on a la chance d'avoir parmi nous une bénévole accompagnante, mais il y en a un certain nombre d'ailleurs qui chantent dans une chorale, et cette chorale, qui est la chorale de Beaulieu, eh bien, propose de faire un concert qui est au Centre Saint-Augustin le 16 mars prochain. Le dimanche 15 mars prochain, un concert et dont nous pourrons bénéficier du profit.
14h30 le 15 mars.
Et sinon, pratiquement, si quelqu'un veut rentrer dans le mouvement JALMAF, qu'est-ce qu'il peut faire? Aller donc à la permanence?
Alors, il peut se présenter à une de nos permanences. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais il y a tous les lundis et jeudis de 16 à 18h. Donc 10 rue de Lodi, c'est un magasin. On peut difficilement passer rue de Lodi sans voir notre vitrine, notre devanture. Il peut appeler aussi au téléphone et laisser un message au 04 77 37 70 38. Il peut envoyer un mail aussi. Et puis il peut tout simplement taper sur Google, enfin je ne voudrais pas faire la pub, JALMAF Saint-Étienne, et il arrivera directement sur le site et il aura tous les renseignements, notre histoire. Il verra comment nous sommes organisés, composés, etc.
C'est Françoise
qui va lire le message.
Merci donc à Christine Gros et merci à vous, docteur Anne Richard, pour votre présence.
Merci à vous surtout.
Merci.
cette rencontre.